Good evening, the Secretary General.
Bonsoir. Le secrétaire général et le président vont faire leur déclaration quant à la réunion qui vient de finir. Et après ça, nous aurons des questions. Bonsoir. Alors, nous venons de tenir une réunion importante avec le président Poroshenko sur la crise, la grave crise qui se déroule en Ukraine. La Russie, maintenant, est en lutte contre l'Ukraine, est en train de combattre l'Ukraine sur le territoire ukrainien. Des chars, des troupes engagent les Ukrainiens sur leur propre sol et la Russie n'a pas pris une seule initiative pour permettre que la paix se fasse. À la place de désintensifier, elle n'a fait qu'intensifier cette crise. Ceci a des répercussions très graves pour la sécurité et la stabilité de toute la zone euro-atlantique. Nous sommes unis. Nous soutenons la souveraineté et l'intégrité territoriale de l'Ukraine dans ses frontières internationalement reconnues. Nous condamnons fermement les violations répétées du droit international de la part de la Russie. La Russie doit cesser ses actions agressives contre l'Ukraine. Elle doit retirer ses milliers de troupes de l'Ukraine et des frontières de l'Ukraine et elle doit cesser de soutenir les séparatistes en Ukraine. Nous appelons la Russie à renoncer à son annexion illégitime et illégale de la Crimée. Cette annexion, nous ne pouvons pas et nous n'allons pas reconnaître. C'est la première fois depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale qu'un pays européen a essayé de saisir le territoire d'un autre pays par la force. L'Europe ne doit pas tourner le dos au droit international et à la primauté du droit et ne doit pas reconnaître la loi du plus fort. C'est un principe de base. L'Ukraine est un partenaire important et spécifique de l'OTAN depuis longtemps. Nous saluons les contributions de l'Ukraine aux opérations de l'OTAN et à l'ANRF, la force de réaction de l'OTAN. L'Ukraine nous a soutenus et c'est à ce moment-ci que nous soutenons l'Ukraine. Notre soutien est concret et clair. Nous avons un paquet exhaustif de mesures qui permettront à l'Ukraine de pourvoir sa propre sécurité. La cyberdéfense, la logistique, le commandement, le contrôle et les communications. Nous allons également aider à adapter et à rétablir les troupes qui ont été blessées au combat. Nous allons aider l'Ukraine à mener des réformes de son secteur de la défense et les alliés vont assister l'Ukraine par le biais de 50 millions d'euros par l'OTAN, par le biais de l'OTAN. Et en outre, nous avons entendu d'autres offres bilatérales d'assistance financière et autres. Une Ukraine indépendante, souveraine et stable, fermement attachée à la démocratie et à l'état de droit, est un pilier de la stabilité, un gage de notre sécurité. C'est notre objectif et, Monsieur le Président, je sais que c'est le vôtre.
Merci beaucoup, Monsieur le Secrétaire général. Excellences, Mesdames, Messieurs, je suis très heureux de pouvoir vous informer que nous avons ouvert une discussion de fond du sommet en commission OTAN-Ukraine aujourd'hui. Jamais je n'ai reçu un soutien aussi précieux par tous les dirigeants des pays chefs de gouvernement et par les représentants des États membres de l'OTAN, comme ceci a été manifeste aujourd'hui pour l'Ukraine. Il s'agit vraiment d'un événement historique au plus haut niveau au cours de 20 années d'histoire de partenariat entre l'Ukraine et l'OTAN. Ce partenariat a toujours été un facteur essentiel pour la sécurité internationale et régionale et la stabilité. La sécurité et la stabilité ont été brutalement sapés par l'agression de la Russie. Et chaque chef d'État et de gouvernement a insisté sur l'importance de l'unité, de la solidarité avec l'Ukraine. L'OTAN l'a prouvé aujourd'hui. Dès le début des hostilités, l'Alliance a été aux côtés de l'Ukraine, l'a appuyé sur le plan politique, sur le plan pratique, dans la plus large mesure du possible. Cette position a été réaffirmée aujourd'hui par les chefs d'État et de gouvernement de l'OTAN, par tous les États membres ici présents aujourd'hui. Et nous l'apprécions énormément. Nous sommes reconnaissants auprès de l'OTAN, à chacun des alliés, pour l'aide pratique, pour la main forte qu'ils nous ont fournie dans les mois passés. L'aide humanitaire pour la population civile touchée par les conflits armés, un soutien consultatif également qui a déjà fonctionné pour l'Ukraine, le traitement médical des personnes blessées, des soldats, etc. Lors de la réunion, nombre d'alliés ont déclaré qu'ils allaient apporter un soutien pratique supplémentaire à l'Ukraine, à titre bilatéral, y compris un engagement à contribuer au nouveau fonds d'affectation spéciale nouvellement établi pour les capacités de défense. Il s'agit également, c'est très important, de remettre en état tous les soldats blessés. Il y aura également une coopération technique bilatérale sur des questions létales et non létales. C'est dans le besoin qu'on reconnaît ses amis, et ceci prouve la solidarité manifestée vis-à-vis de l'Ukraine. Nouvelle situation sécuritaire créée par cette agression demande des actions conjointes afin d'endiguer les défis sécuritaires naissants, y compris ceux de la guerre hybride. Les menaces façonnent un nouveau cadre stratégique dans la coopération entre l'OTAN et l'Ukraine. Nous avons eu un échange de vues très franc, très direct, quant à la façon dont les relations OTAN-Ukraine vont évoluer dans ce nouvel environnement sécuritaire. Nous avons décidé que notre coopération à venir sera concentrée sur une réalisation d'une interopérabilité totale entre l'Ukraine et l'OTAN. Il s'agira de développer des capacités conjointes dans le domaine de la défense, dans le domaine militaire et dans le domaine sécuritaire. Nous allons renforcer notre coopération intensifiée avec l'OTAN dans le domaine de la défense et de la sécurité. Grâce à ce programme d'établissement des capacités se concentrant sur des réformes des forces armées ukrainiennes ainsi que d'autres structures et éléments sécuritaire. Le deuxième élément de cette nouvelle coopération OTAN-Ukraine, le cadre stratégique, c'est la participation de l'Ukraine dans cette initiative d'interopérabilité en partenariat. Ceci nous permettra de maintenir un grand niveau d'interopérabilité entre l'Ukraine et les forces de l'OTAN. Cela permettra d'avoir cette participation continue de nos contingents nationaux dans les missions menées par l'OTAN ainsi que les opérations grâce à des exercices conjoints et grâce à la force de réaction de l'OTAN. Et en dernier lieu, quels sont les éléments de ce nouveau cadre? Il s'agit d'approfondir le partenariat spécifique entre l'OTAN et l'Ukraine. Il faut réexaminer ce partenariat. Il fera partie intégrante de l'intégration de l'Ukraine vers les structures de l'OTAN. L'engagement permettra de mettre en œuvre plusieurs réformes ayant trait à l'intégration. L'Ukraine va poursuivre l'objectif fixé dans le programme national annuel de coopération entre l'OTAN et l'Ukraine avec d'autres instruments et mécanismes existants. Une telle démarche donnera les synergies nécessaires entre l'Ukraine, la coopération euro-atlantique et l'intégration européenne. Merci de votre attention. Nous allons commencer par une première question.
Agence ukrainienne Unian, question pour les deux orateurs. Pour le président, quelle est votre vision pour une adhésion de l'Ukraine à l'OTAN? Est-ce que vous avez un calendrier en tête? Et, monsieur le secrétaire général, comment est-ce que l'OTAN peut aider l'Ukraine dans ce sens? Alors, si vous pensez au programme annuel de coopération avec l'OTAN, vous verrez que la part du roi, du lion de ce plan est consacrée non seulement au secteur sécuritaire, mais à l'économie, à l'état de droit, à la lutte contre la corruption, et j'en passe. Et je pense que c'est le facteur clé et qui permettra l'Ukraine de montrer la réussite de sa réforme. Et voilà pourquoi je peux vous dire que la guerre à l'est du pays n'est pas une excuse pour ne pas mener à bien la réforme du pays. Voilà pourquoi la semaine prochaine, nous allons présenter cette réforme, un produit de ce que nous avons fait avec l'Union européenne et l'OTAN. Et je pense que le nouveau Parlement nous permettra d'accélérer le processus de réforme. Et lorsque notre pays correspondra aux critères édités par l'OTAN, c'est le pays, le peuple ukrainien qui décidera quand et comment.
C'est à la population ukrainienne de décider de son sort, je le précise. C'est aux dirigeants politiques ukrainiens de décider de la façon dont ils souhaitent faire évoluer leurs relations avec l'OTAN. Mais quelles que soient les décisions prises, il est très important d'améliorer notre capacité à travailler, à œuvrer ensemble. Et c'est précisément la raison pour laquelle nous nous concentrons sur les réformes, la modernisation des forces armées ukrainiennes. Il s'agit d'élever les critères, les normes pour qu'elles arrivent au niveau de l'OTAN. Ce sera donc un point central dans le cadre de la Commission OTAN Ukraine, ainsi que dans le cadre du programme national annuel et également grâce au fonds d'affectation spéciale que nous avons décidé de lancer. Daily Day. Je vais poser une question au secrétaire général. Monsieur le secrétaire général, alors, vous avez parlé d'exclure l'option militaire. Il y a donc une agression de la part de la Russie, ce n'est pas une crise ukrainienne. Comment est-ce qu'on peut repousser les forces ukrainiennes? Comment est-ce que la Crimée peut être restituée? Comment peut-on régler cette question sans donner de l'équipement militaire à l'Ukraine, qui est vraiment nécessaire pour l'Ukraine dans ce cas? Alors, à dire vrai, je ne crois pas que qui que ce soit souhaite voir la guerre ou des conflits armés pour régler cette question. Nous pensons que la meilleure marche à suivre serait de trouver une solution politique et de faciliter une telle solution politique. Et pour ce faire, je suis persuadée que la communauté internationale doit réagir de manière déterminée si la Russie devait intervenir et aller plus loin encore en Ukraine. Il faudrait donc réagir par des sanctions économiques plus rudes, plus vastes, qui mettraient à mal certainement l'économie russe et isoleraient la Russie plus encore.
One plus one. Question pour le président d'Ukraine en ukrainien, si vous voulez. Oui, monsieur le président, est-ce qu'il y a eu des accords avec les alliés, avec des alliés individuels quant à la fourniture d'armes à l'Ukraine? Est-ce que nous parlons d'armes non létales, d'armes de précision, des moyens létaux? Est-ce que vous pouvez préciser ce que vous disiez à propos des 15 millions d'euros qui devaient être donnés à l'Ukraine et sur quoi est-ce que vous alliez les dépenser? Tout d'abord, je voudrais remercier les pays qui ont participé à la réunion d'aujourd'hui de leur soutien fort et de leur aide, y compris l'aide financière, notamment par le biais des 4 fonds d'affectation spéciale qui touchent des domaines très importants de la sécurité de l'Ukraine. Je parle de la logistique, je parle des systèmes de commandement de contrôle, des communications et de la cyberdéfense. Différents pays de l'OTAN se sont coordonnés pour devenir les soi-disant pays chefs de file dans ces fonds et d'autres pays se sont joints à ces fonds. Et puis, à part cela, chaque pays a parlé de nos consultations bilatérales et de l'assistance qu'il donnait à l'Ukraine, notamment la coopération militaro-technique dans le domaine des armes non létales et létales, y compris les armes de précision. Donc je parle ici de pays individuels, bien sûr. Et ils se sont engagés à guérir, à traiter le personnel blessé, d'autres pays à fournir du matériel médical. Comme vous voyez, l'éventail de notre coopération bilatérale avec différents alliés au plan individuel est extrêmement vaste. Je voudrais ajouter que dans la résolution que nous avons adoptée, vous verrez un passage qui parle de la coopération bilatérale dans le domaine militaire et technique.
Jim Newger from Bloomberg.
Alors, une question tout d'abord au président Poroshenko concernant les pourparlers de Minsk qui auront lieu demain. Comment entrevoyez-vous les perspectives qui se présentent pour un cessez-le-feu? Et pourquoi est-ce que vous vous lancez dans ce processus maintenant? Parce que sinon, vous avez peut-être peur que ça donne des conflits gelés. Et puis, je demanderai au secrétaire général ensuite d'évaluer l'initiative de paix de M. Poutine. Est-ce qu'elle est authentique ou est-ce que c'est simplement un écran de fumée? Alors, écoutez bien. L'Ukraine lutte pour trouver la paix. L'Ukraine n'est pas le pays qui a lancé la guerre. L'Ukraine est l'objet de l'agression et l'a subi. Et nous essayons de faire de notre mieux pour arrêter le plus rapidement possible l'agression, pour arrêter le feu. Et pourquoi? Parce que c'est précisément l'Ukraine qui paie le lourd tribut chaque jour. Nous perdons des vies humaines en termes de soldats, de civils innocents. Et moi, en tant que président de l'Ukraine, je suis prêt à faire de mon mieux afin d'arrêter la guerre. Alors, je suis toujours d'un optimisme prudent vis-à-vis de la réunion demain avec le groupe de contact trilatéral à Minsk. Pourquoi est-ce que je dis cela? Parce qu'avant, il y a eu une déclaration des autorités russes et du président russe pour répondre à une déclaration des dirigeants des républiques populaires de Lugansk et de Donetsk autoproclamées, disant qu'ils étaient prêts à un cessez-le-feu immédiat. Et il est donc très important maintenant d'avoir l'appui de l'OSCE pour l'observation et la mission de vérification et pour libérer immédiatement les otages qui sont capturés par les terroristes de manière illicite afin de mieux maîtriser la situation sur la frontière russo-ukrainienne avec un retrait des troupes russes. Je crois que c'est un défi énorme, très ambitieux, avant les négociations politiques qui seront aussi très importantes, en tenant compte du fait que la question de la souveraineté ukrainienne, de l'intégrité territoriale de l'Ukraine et de l'indépendance de l'Ukraine n'est pas une question négociable. Si les déclarations récentes du président Poutine représente un effort authentique visant à trouver une solution politique, là, je saluerais cet état de choses parce que c'est précisément ce dont nous avons besoin. Il nous faut un processus politique constructif. Quoi qu'il en soit, ce qui compte, c'est ce qui se passe précisément sur le terrain. Donc, il faudra voir quelle est la situation sur le terrain. Et je dois dire que précédemment, nous avons vu des déclarations similaires, des initiatives, et en fait, c'était véritablement un écran de fumée, rien de plus. Et la Russie visait à déstabiliser plus encore la situation en Ukraine. Donc, à la lumière de cette expérience, il faut rester prudent dans nos évaluations. Mais je le répète à nouveau, si nous assistons à des efforts réels visant à trouver une solution politique, là, je les saluerai, bien entendu.
Merci, bonne soirée.